XVIe, c'est-à-dire la Réforme. Et là, on va en avoir de belles aussi, vous allez voir. Bon, nous allons terminer le 15e et nous allons voir l'esprit de l'humanisme. Car l'humanisme est le terreau sur lequel la Réforme va se greffer. L'humanisme, né dans un contexte historique bien précis, d'abord celui de l'unification de l'Espagne, puis ensuite la décadence de la papauté avec Alexandre VI Borgia, célèbre pape, fils de son père, qui était pape de père en fils, avec sa célèbre fille Lucrèce, qui était sa maîtresse d'ailleurs, maîtresse du pape, et sa propre fille comme maîtresse. Et bon, ce n'était pas d'ailleurs son seul amant, cette brave Lucrèce. Ils étaient innombrables. Voilà, ça c'est l'Église catholique. Alors, ensuite Jules II, qui est le pape de la Renaissance, alors lui, c'était un autre genre. Lui, c'était le pape guerrier. Il chargeait à la tête de ses troupes sur son cheval, n'est-ce pas, pour pourfendre les ennemis de la papauté. Oh, pas les infidèles, non, les ennemis des intérêts politiques de la papauté. Car les États pontificaux sont alors une puissance politique. Mais malgré cela, n'est-ce pas, l'Église catholique est sainte, quoi. Indépendamment de la sainteté toute relative au combien de ses membres, n'est-ce pas ? On prenne qui pourra, mais c'est comme ça. Bon, c'est aussi l'époque de l'apparition du capitalisme, des monopoles, et ça aussi, ça va influer sur la Réforme. Car malgré ce rétablissement de la situation politique de la papauté, cette dernière sort affaiblie des fameux conflits du grand schisme d'Occident. D'autre part, l'idée d'un concile réformateur n'est pas morte. Et au contraire, elle continue à faire son chemin malgré le fait que la papauté s'y oppose mordicus. Maintenant, ce qui retient les gens dans les églises, alors que l'église commence à se déconsidérer, c'est les indulgences. Les indulgences sont, en quelque sorte, l'attrait de l'église catholique. Et puis, il y a aussi l'espoir que les choses vont changer. Les espoirs millénaristes du retour de Jésus, et puis aussi d'un empereur qui serait une sorte de messie. On attend le châtiment du monde, le châtiment de l'Église, une espèce de mort de l'Église et de résurrection de l'Église, qui irait de pair avec le mouvement de la Renaissance, de la même manière que dans le domaine des arts, il y a une Renaissance. On se prend à espérer une renaissance dans le domaine religieux. Bon, la Renaissance, nous avons vu qu'elle s'était répandue essentiellement à partir des républiques italiennes de Venise, de Gênes, de Pise et de Florence. C'était donc, nous avons vu, ce retour aux sources, avec les écrits en langue nationale. Et alors, évidemment, l'Église, dans la mesure où l'humanisme est une réaction contre la scolastique du Moyen-Âge, ne peut pas ne pas réagir négativement contre l'humanisme et contre la Renaissance. La Renaissance, c'est aussi la revendication de l'autonomie par rapport à l'Église. L'autonomie de la culture d'abord, et puis ensuite l'autonomie de la raison. Et pour cette, donc l'autonomie de la science, et pour cette raison également, l'Église catholique réagit négativement. Il y a deux idées maîtresses, l'individualisme et le subjectivisme. Donc c'est un changement profond par rapport à l'esprit du Moyen-Âge, et en réalité c'est un élargissement des failles qui se sont fait jour déjà à partir du XIIe siècle. C'est la fin de l'ordre médiéval. Il y a un autre aspect aussi, c'est justement le réalisme. Le souci de l'expérimentation qui va donner justement naissance à l'essor des sciences. Il apparaît donc que l'Église qui avait l'apanage de la culture depuis le Moyen-Âge, depuis les invasions barbares en fin de compte, n'est-ce pas, va perdre ce privilège-là. La culture et la science vont devenir autonomes par rapport à l'Église. Et en même temps, on pourrait dire en opposition avec l'Église. Alors l'Église commence à s'opposer. Puis alors, selon sa tactique, quand elle n'arrive pas à éliminer quelque chose qui lui déplaît, elle essaye de le contourner pour le submerger, le contrôler. C'est ce que va faire l'Église catholique. Elle va chercher à ramener à elle cette nouvelle culture, mais le problème, c'est que c'est une culture profane, une culture qui est orientée contre l'Église. L'Église cherche à tout ramener au règne de Christ, tel que le conçoit elle, bien sûr, mais pas tout à fait ce que le Seigneur pense. Et la Renaissance, pour elle, est un coup d'arrêt brutal dans son évolution. C'est un coup d'arrêt brutal car aussi la Renaissance, c'est la fin d'une illusion. C'est-à-dire qu'à partir de la Renaissance, on perd l'espoir de créer une civilisation chrétienne. C'est le constat d'échec de la civilisation chrétienne, de la notion de chrétienté qui existe depuis Constantin. Bien sûr, cette notion va perdurer jusqu'à nos jours. Et l'Église, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, aura les plus grandes difficultés à se sortir de la notion de chrétienté. Mais en tout cas, il est certain que l'idée de chrétienté a pris un coup terrible à partir de la Renaissance. C'est aussi la naissance du relativisme. Est-ce qu'il peut y avoir une vérité que l'on peut connaître absolument? Est-ce qu'il n'y a pas plus exactement une approximation de la vérité? Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau aussi qui apparaît à la Renaissance. Enfin, la Renaissance, c'est aussi le primat de l'État laïque sur l'État religieux. L'idéal du Moyen-Âge était le moine. L'idéal de la Renaissance, c'est le laïc. Et alors, face à la dictature du clergé, les laïcs vont revendiquer là aussi une autonomie, ce qui n'est pas fait évidemment pour plaire à l'Église. À côté de cet élan vers l'expérimentation, vers les sciences exactes, il y a un autre mouvement qui est tout à fait opposé, mais qui en fin de compte n'est pas si loin que ça, c'est l'attrait pour la magie et l'astrologie. Dans la mesure où ces deux réalités sont considérées comme des sciences exactes, elles attirent une multitude de monde. Et le plus célèbre mage de l'époque sera bien évidemment le célèbre Nostradamus. Le premier pape qui va cesser de s'opposer au mouvement de la Renaissance, c'est Eugène IV, qui lui-même a été influencé par l'esprit de la Renaissance quand il était à Florence. Mais c'est son successeur, Nicolas V, qui lui donne véritablement droit de cité. Et à partir de ce moment-là, les papes deviennent des mécènes d'art. Ils vont promouvoir l'esprit de la Renaissance. Et par exemple, c'est ainsi que la chapelle Sixtine va être décorée par Michel-Ange, n'est-ce pas, dans l'art de la Renaissance le plus typique. Et puis, avec la Renaissance, il y a l'engouement pour la mythologie. L'ancienne mythologie qui apparaît évidemment démythifiée, si l'on peut dire. Mais quand même, avec tout son aura d'ésotérisme, de divination, de magie. Et aussi avec l'apparition d'un platonicisme ésotérique. Ça veut dire qu'il est teinté de magie. Maintenant, on est aussi conscient que le mouvement de la Renaissance prépare peut-être cette grande réforme de l'Église à laquelle on aspire et sans laquelle on sent bien qu'on va vers une catastrophe. Certains vont jusqu'à penser que s'il n'y a pas cette réforme, c'est le jugement dernier qui va venir sur l'Église. Et alors, c'est dans ce contexte que, comme un coup de tonnerre, va éclater justement la réforme du XVIe. Et nous allons maintenant commencer un nouveau grand chapitre, un énorme chapitre qui sera justement le XVIe siècle. Bon, il est évident que nous allons passer beaucoup de temps sur le XVIe siècle. Des catholiques s'y attarderaient sûrement beaucoup moins que nous, pour des raisons évidentes. Le XVIe siècle, on peut appeler ça le temps des réformes, comme l'a fait Chaunu. Néanmoins, j'emploierai cette expression dans un sens un petit peu différent du sien. Chonu considère avec les catholiques qu'il y a deux réformes au XVIe siècle, la réforme protestante et la réforme catholique. Je maintiens pour ma part qu'il y a la réforme protestante et la contre-réforme catholique. Que la contre-réforme catholique n'est pas une réforme au sens où il faut l'entendre, mais, comme le dit l'expression traditionnelle, une contre-réforme, c'est-à-dire une tentative de contrer la réforme, de la détruire. Par contre, il y a réforme au pluriel, dans ce sens que la réforme n'est pas un phénomène unique. C'est un mouvement, et dans une perspective chrétienne, nous allons dire un mouvement du Saint-Esprit, qui éclate pratiquement spontanément dans différents endroits, dans différents pays. On pourrait dire presque dans toute l'Europe en même temps. Les esprits étaient prêts à cela, et à l'heure de Dieu, le mouvement éclate. Le mouvement éclate, je dirais, presque sans qu'il y ait de relation au départ entre ces différentes réformes les unes avec les autres. Puis, évidemment, on constate qu'il y a des convergences entre ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en France, en Suisse, en Angleterre, en Scandinavie, en Bohême, en Hongrie, même jusqu'à un certain point en Espagne et en Italie. Et alors, il y a une sorte d'unification qui se fait tant bien que mal. La réforme ne surgit pas ex nihilo. Mais il y a tout un ensemble de conditions qui la préparent. La première remarque qu'il nous faut faire, c'est que la réforme est un phénomène urbain et un phénomène des lettrés. Ce sont des savants, en quelque sorte, qui sont les promoteurs de la réforme, parce que nous avons vu que la réforme naît sur le terreau de l'humanisme. Or, précisément, l'humanisme était un mouvement laïque, non religieux, mais un mouvement de retour aux sources. Et la réforme est aussi le pendant de l'humanisme dans le domaine religieux. C'est un retour aux sources, non plus aux sources philosophiques, artistiques, du paganisme gréco-latin, mais aux sources de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'on fait abstraction du Moyen-Âge, on fait abstraction des pères de l'Église pour revenir à l'Église primitive, pour revenir au texte fondateur du christianisme hébreu et grec, la Bible. Nous avons vu que ce retour aux sources était rendu possible par la démocratisation du savoir, la démocratisation de la lecture et de l'écriture, et cela grâce à l'invention de l'imprimerie et du papier. Bon, le fait que nous notions tout à l'heure que c'est aussi l'époque de la naissance du capitalisme, des grandes découvertes, l'Amérique, etc., joue. Car cela permet justement tout un courant d'échange dans l'Europe, et l'on sait que les marchands sont aussi ceux qui véhiculent non seulement des marchandises, mais des idées. Et ce qui est étonnant quand on étudie l'histoire de cette période, c'est de voir les mouvements, comment dire, les voyages que font les réformateurs. N'est-ce pas ? Ils n'arrêtent pas de voyager d'un bout de l'Europe à l'autre. N'est-ce pas ? Et les idées des réformateurs sont véhiculées comme ça parce que il y a des mouvements de personnes, il y a des mouvements de marchandises qui sont très nombreux dans l'Europe du XVIe siècle, ce qui aurait été impensable quelques siècles plus tôt. Enfin, il y a l'infidélité croissante de l'Église, qui joue énormément, bien évidemment. Et le XVIe siècle est le revirement brutal de cette tendance générale qui a commencé depuis Constantin. Maintenant, disons que le XVIe siècle aussi est un siècle où, indépendamment du phénomène des réformes, il y a un intérêt religieux. On pourrait dire que ce sont des hautes eaux religieuses. Et c'est pourquoi, justement, le mouvement de retour aux sources va avoir un tel succès. Nous sommes, nous, au XXe siècle, dans un temps de basses eaux religieuses. Et un tel mouvement, évidemment, n'aurait pas le même succès, c'est évident. Les catholiques considèrent jusqu'à aujourd'hui que que la réforme du XVIe est le plus grand malheur qui ait jamais atteint l'Église catholique. Tout est relatif, bien évidemment. Hein? Et que par conséquent, les effets destructeurs de la réforme durent jusqu'à ce jour. Et c'est pourquoi la réforme du XVIe dépasse de loin les malheurs qu'ont représenté le catharisme au XIIe siècle, car les cathares ont eu le bon goût de se laisser massacrer, alors que les protestants n'ont pas fait cette grâce à l'Église catholique. Et les effets destructeurs, donc, de la réforme ont duré des siècles, disent les catholiques. Les catholiques considèrent que l'enjeu de la lutte, c'est la forme que doit avoir le christianisme. Et pourquoi la réforme est-elle si dangereuse pour le catholicisme? C'est parce qu'elle pose la question fondamentale, l'Église catholique est-elle la véritable Église? Question qu'il ne faut pas poser. Voilà. Quelles sont les causes de la réforme? Les catholiques disent, c'est l'état moral de l'Église. Ça a joué, incontestablement. Mais la réforme n'a pas été seulement une réforme morale. La cause essentielle de la réforme, c'est la redécouverte de la Bible. Nous avons vu dans quelles conditions, après la chute de Constantinople, je n'y reviens pas. Conséquence seconde, je dirais, plutôt cause seconde, l'évolution politique, la création d'États souverains. Donc, qui n'était plus directement inféodé à la papauté. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder une carte de l'Europe du XVIe siècle et de voir que plus on est éloigné du centre de Rome, je veux dire géographiquement, plus la réforme s'instaure facilement. Dans les pays scandinaves, la réforme s'est faite presque sans lutte, sans combat, parce que l'influence romaine était faible. En Italie, en Espagne, la réforme a avorté parce qu'on était tout près du centre romain. En France, ça a failli basculer. Finalement, Rome a eu la haute main. Donc ici, ce qui a joué, c'est la création d'États indépendants. Et alors, les églises de la Réforme se sont constituées comme des églises nationales. L'église luthérienne allemande, l'église réformée suisse, l'église anglicane en Angleterre, etc. N'est-ce pas ? C'était des églises nationales qui étaient défendues par les princes qui les avaient adoptées. Et dans le contexte sociopolitique de l'époque, c'était quasi indispensable. Car si les réformateurs n'avaient pas eu l'appui du bras séculier, peut-être que la réforme aurait connu le sort de ce qui s'était passé avec les cathares, mais nous ne sommes plus au XIIe siècle. Même si les barons du Sud avaient pris parti pour l'hérésie cathare au XIIe siècle, ils ont dû finalement capituler parce que l'Europe était unie sous le sceptre de Rome. Mais là, il y a des grands États qui sont indépendants de Rome et qui peuvent tenir tête aux prétentions romaines et aux exigences romaines d'extirper l'hérésie. Donc ça, si vous voulez, c'est une cause seconde. Le premier détonateur de la réforme, c'est Érasme. Érasme, 1467-1556, c'est un Hollandais établi à Rotterdam qui a entre les mains les manuscrits qui sont venus de Constantinople du Nouveau Testament en grec et nous l'avons vu qui publie un premier Nouveau Testament grec, une édition grecque du Nouveau Testament. Ce Nouveau Testament est diffusé à très grande échelle grâce au progrès grâce à l'invention de l'imprimerie. Et ce Nouveau Testament grec d'Érasme, qui est lui-même un humanisme, un des pères de l'humanisme, un des chefs de file du mouvement humaniste, va avoir une profonde influence, notamment sur Luther. Maintenant, il faut aussi préciser un autre élément qui a joué aussi un rôle non négligeable, c'est que depuis Valdo, depuis Wycliffe, depuis Jean Hus, il existait, ça et là, dans toute l'Europe, il subsistait plus exactement de petits groupes de chrétiens évangéliques. Ils subsistaient dans des conditions difficiles, ils subsistaient en but à de terribles persécutions, mais ils avaient préparé le terrain. Et ils avaient préparé le terrain pour un grand mouvement mondial. Et la réforme, quand elle va venir, va donner à ces mouvements un second souffle qui va permettre une très grande diffusion des idées de la réforme. Les courants de pensée au XVIe siècle favorisent aussi l'idée de la réforme. Depuis le XIIIe siècle, l'Angleterre était allergique à la pensée thomiste. Et ceci va être très important aussi pour que expliquer comment l'Angleterre va pouvoir basculer justement du côté de la réforme dans son ensemble, alors que l'Angleterre est un des États les plus puissants d'Europe à cette époque-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est où trouver Dieu ? La réponse du Moyen-Âge, c'est dans l'Église. Maîtresse de la Sainte Écriture. Car l'Écriture est accessible à un petit nombre de gens seulement, et son interprétation dépend de l'Église. Or, nous avons vu au XVe siècle l'autorité de l'Église s'effondre. Elle s'effondre dans les scandales des Borgia, elle s'effondre dans les scandales de Jean XXIII, du grand schisme, des antipapes. Alors une question se pose au XVIe siècle. Si l'Église s'effondre en tant qu'autorité, où trouver Dieu ? Et alors, la réponse est dans l'Écriture. Oui, mais l'Écriture doit être interprétée par l'Église. Et si l'Église se trompe, alors il faut reposer l'autonomie de l'Écriture par rapport à l'Église. Et ça, déjà, Wycliffe avait préparé le terrain, nous l'avons vu. C'était tout simplement la pensée de Wycliffe. Il y a aussi du côté des humbles un certain nombre de questions qui se posent. Un des gros problèmes aussi, c'est que le nombre des religieux est énorme, représente une grande partie de la population. Or, beaucoup sont religieux non pas par vocation, mais pour toutes sortes de raisons, d'intérêts ou autres. Il y a un problème qui gêne énormément les religieux à cette époque-là, c'est le problème du célibat. Alors il y a deux moyens pour contourner ce problème, soit avoir des maîtresses en secret, les papes donnent l'exemple, alors pourquoi se gênerait-on ? Mais il y a, pour des gens qui sont un petit peu plus, quand même, un peu plus sérieux, un autre moyen qui naît à partir du XIIIe siècle, c'est le mariage secret. Et nombreux sont les clercs qui, avec l'accord de leurs supérieurs, sont mariés en secret. La religion à cette époque-là donc touche énormément des gens qui sont des ignorants, des illettrés. Et alors c'est une religion du faire et non pas une religion du savoir. C'est une religion qui s'efforce de répondre aux angoisses de la mort omniprésente. On meurt jeune, on meurt d'une manière violente, on meurt dans des guerres, on meurt de famine, on meurt de peste, on meurt pour toutes sortes de raisons. Et alors, finalement, le catholicisme du XVIe siècle, du XVe siècle, la fin du Moyen-Âge, disons, ne fait qu'accorder une grande importance à l'ultime moment, le moment de la mort. Parce que c'est ce moment-là qui va décider du sort. Et alors il y a, au XVe siècle, des ligues de piété, de laïcs, qui sont là justement pour aider les gens à bien mourir. Et alors, pour être en règle au moment de la mort, il faut l'extrême onction, il faut la confession, dès qu'on se sent mal, on appelle un prêtre, au cas où, n'est-ce pas ? On prend la dernière communion et puis donc on est prêt. Le reste a peu d'importance. Du moment que on a le temps d'accomplir ses actes avant l'heure de la mort, ce qu'on a fait auparavant n'a pas tellement d'importance. On peut vivre n'importe comment. Et alors, cela évidemment provoque une révolte de gens comme Wycliffe, comme Luther, comme Huss, pardon, qui sont en fait des produits du grand schisme. Ce sont des gens qui se sont posés des questions parce qu'ils ont vu qu'il y avait un décalage entre les affirmations de l'Église et puis la réalité qu'ils étaient en train de vivre, tout simplement. Wycliffe, lui, a contesté l'Église et il a posé le principe de l'écriture, l'autonomie de l'écriture. En fait, on peut dire que les mouvements de réforme ont commencé depuis 2 siècles, déjà. Mais il y a un autre élément qui entre en ligne de compte aussi, c'est le développement de la piété personnelle, qui était inexistante au Moyen-Âge. Maintenant, avec des hommes comme Wycliffe, comme Huss, on a un rapport direct avec Dieu personnel. Et alors, comme on a au XVIe siècle une démocratisation du savoir, le décalage entre la religion du faire et puis finalement celle de la foi, du savoir. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est le savoir. Savoir que Jésus est mort pour nos péchés, eh bien, va prendre de plus en plus d'importance. Les idées d'humanisme du XVe siècle vont connaître 2 grands centres. Le premier, c'est le nord des Provinces-Unies, qui deviendra plus tard la Hollande, et puis surtout Oxford, en Angleterre. Bon, cet humanisme, nous l'avons vu, c'est une réaction contre la scolastique du Moyen-Âge, qui est basée sur la lectio, la répétition, et puis l'école. On connaît les Écritures par les commentaires, mais le sens littéral est laissé de côté. On étudie les commentaires, des commentaires, des commentaires, des commentaires, et alors on se rend bien compte au bout d'un temps qu'il est impossible d'intégrer tous les commentaires dans une vie. Le Moyen-Âge a produit tellement de commentaires, des commentaires, qu'un seul homme ne peut pas tout appréhender ses commentaires. Et alors, on se trouve un petit peu comme l'étaient les pharisiens de l'époque de Jésus, ployant sous un joug incroyable d'interprétation, et finalement on est coupé de l'essentiel. Et l'humanisme, c'est cela. C'est la réaction contre ce fratras, cet envahissement de ses commentaires pour revenir au texte lui-même. L'humanisme va de pair avec l'apparition d'une classe moyenne. Jusqu'alors, nous avons vu, il y avait au XVe siècle à peu près 3000 personnes sur toute l'Europe qui avaient accès au savoir. C'est peu. Et à partir de la fin du XVe, du XVIe siècle, il y a une explosion de la connaissance. Alors on trouve à côté la vieille intelligentsia, d'un côté la vieille intelligentsia scolastique, cléricale, jalouse de ses privilèges dans ses universités, cantonnées dans ses universités, et puis une nouvelle intelligentsia, celle des classes moyennes, des marchands, des bourgeois des villes, n'est-ce pas, qui, eux, eh bien, se dressent contre la scolastique. C'est un autre point aussi qui va jouer énormément, c'est que l'on revient maintenant avec la Renaissance au latin classique, et non plus au latin du Moyen-Âge, au commentaire médiéval. Et l'humanisme, c'est d'abord un mouvement linguistique, un retour au véritable latin, au latin reconstruit, car le latin, au XVIe siècle, comme au Moyen-Âge, c'est la langue universelle. C'est la langue qui est parlée, par les lettrés, n'est-ce pas ? Il est possible à un Anglais de communiquer avec un Allemand, à un Italien de communiquer avec un Scandinave, ils ont une langue commune, le latin. Mais le latin est réservé à une élite. Tous ne la connaissent pas. Il faut de longues études pour maîtriser le latin. Certains en savent quelque chose, n'est-ce pas ? Et alors, ce latin est devenu une espèce de jargon, une langue de bois incompréhensible. Et le premier effort des humanistes, notamment d'un certain Pétrarque, c'est de reconstruire le latin classique. Et c'est ce Pétrarque qui est Aristote, le chef de file évidemment de la scolastique, qui souligne l'impossibilité qu'il y a justement de faire cette synthèse thomiste entre la pensée païenne et la pensée chrétienne. Et Pétrarque est celui qui émet une idée qui est très en avance sur son temps, enfin, pas tellement, c'était la morale de l'Antiquité païenne, c'est la bonté naturelle de l'homme, qui servira de base, d'axiome à la pensée moderne à partir du XVIIIe siècle. Maintenant, en 1440, intervient aussi un élément très important qui va être un des détonateurs de la Réforme. Un certain Valla démontre l'inauthenticité des décrétales, des fameuses décrétales dont nous avons parlé, c'est-à-dire ce texte, ce qui était un faux, fabrication, de la donation de Constantin au pape Sylvestre des États de l'Église, donc qui établissait le pouvoir temporel du pape. Valla en fait la démonstration absolument imparable. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Car soudain, on peut démontrer que l'Église, du moins dans sa structure temporelle, est construite sur un mensonge. Un mensonge voulu, délibéré, entretenu. Alors vous comprenez, ça c'est un tremblement de terre terrible. Car si l'Église a menti volontairement pour asseoir son pouvoir, si elle a menti sur ce point-là, pourquoi n'aurait-elle pas menti sur d'autres? Et si elle a menti sur d'autres, quel crédit peut-on encore faire aux affirmations de l'Église? Donc l'Église n'est plus une source sûre au point de vue de la vérité, il faut chercher ailleurs. Et ailleurs, c'est l'Écriture. C'est aussi Pétrarque qui attaque la vocation monacale et la Vulgate, la Bible en latin. C'est aussi la démarche d'Érasme, car Érasme, dans le fond, il veut atteindre le support de la révélation. Et pour lui, contrairement, justement, il conteste la Vulgate. Il dit, ce qui est inspiré, ce n'est pas la Vulgate, ce sont les textes originaux. Et si nous voulons la vérité, nous devons retourner aux textes originaux. Mais il y a un autre élément aussi qui va précipiter la réforme, c'est l'arrivée des Juifs d'Espagne. Les Juifs d'Espagne qui sont chassés par les rois catholiques en 1492 et qui se réfugient notamment justement en Hollande. Et en 1516, quand Érasme publie son Nouveau Testament, il le fait après avoir eu contact justement aussi avec des Juifs d'Espagne. Il faut aussi rappeler qu'une découverte va précipiter la réforme, outre l'imprimerie, c'est la découverte du papier, qui va abaisser le prix de revient du livre dans des conditions très importantes. Et alors, les deux phénomènes interréagissent l'un sur l'autre. Si on a maintenant une matière première, meilleur marché, le papier, on va pouvoir donc multiplier l'imprimerie. Et on assiste au XVIe siècle à une explosion incroyable de l'imprimerie, qui est située d'ailleurs géographiquement sur un axe. L'axe qui suit l'Italie, si vous voulez, sa part d'Italie. L'Italie est véritablement le centre du rayonnement culturel du XVIe siècle. Ça suit le couloir du Rhône et de la Saône, ça remonte l'axe Rhin, jusque Rotterdam, jusque donc là-bas, le nord de la Hollande, quoi. Et les principales imprimeries vont se situer dans cet axe-là. Et alors, à partir du moment où on publie des choses, on multiplie aussi les gens qui sont capables de lire et d'écrire automatiquement. S'il y a davantage de livres en circulation, ça donne envie à des gens davantage de lire. C'est normal. Tout ça, c'est un engrenage, ça fait boule de neige. Maintenant, l'humanisme est certes indépendant du livre. Mais sans l'imprimerie, l'humanisme aurait tourné court. Ça, c'est une chose certaine. Prenons un exemple, la Bible de Gutenberg, la première Bible, donc, premier livre imprimé en pur parchemin, a été imprimée en 30 exemplaires. Il a fallu pour ça 5000 peaux de bête. Eh oui. Alors vous comprenez que tout le monde ne pouvait pas s'offrir une Bible comme ça. Hein. Mais avec le papier, on arrive maintenant à des prix qui sont 30 fois moindres. Alors c'est encore beaucoup. Mais c'est quand même moindre. Jusqu'alors, seuls des très riches pouvaient se payer des Bibles. Maintenant, Les bourgeois des villes moyennes, les classes moyennes ont accès à la Bible. Pas les pauvres gens. Mais les gens des classes moyennes, oui. Alors maintenant, l'humanisme aussi, c'est un retour au simple. On veut revenir à la simplicité des choses. La scolastique, c'était tout ce foisonnement, ce bourgeonnement de croissances diverses. Alors on coupe tout ça, vous savez, comme on taille un arbre, puis on revient à la simplicité, quoi. C'est aussi l'époque où, à partir du moment où on veut mettre le savoir à la disposition du plus grand nombre, pas de tous, mais du plus grand nombre, on est modeste, on est conscient des limites. Alors, il faut aussi faire table rase de ce qui est un obstacle à la démocratisation du savoir. Et un des obstacles, c'est le latin, manifestement. La langue des lettrés, c'est le latin. Tous les livres sont écrits en latin. Alors tout le monde n'est pas capable de lire le latin. Alors on écrit en langue vulgaire. Et ce n'est pas évident au XVIe siècle. Si vous prenez par exemple sur le plan profane en France, un groupe comme le groupe de la Pléiade, qui est un groupe de poètes formé autour de deux grands poètes français que sont Ronsard et Dubellay, n'est-ce pas ? Eh bien, ces derniers, quand ils commencent à écrire des poèmes en français, se font taper sur les doigts de tous côtés. Ils sont obligés de combattre pieds, becs et ongles pour pouvoir continuer à écrire en français. Et l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, si c'est Ronsard ou Dubellay, a écrit d'ailleurs une défense et illustration de la langue française pour se défendre, pour expliquer pourquoi ils écrivaient en français. Bon. Alors, ce qui est vrai dans le domaine profane, pourquoi ne serait-il pas vrai non plus dans le domaine religieux ? Pourquoi ne traduirait-on pas la Bible en langue profane ? Parce que c'est un livre saint. Ben oui, mais peut-être. Seulement, tout le monde ne peut pas le lire. Et au XVIe siècle, il y a un premier personnage qui a l'audace de traduire la Bible en français. Il se nomme Lefèvre d'Étaples. 1450-1536, il est le premier à traduire la Bible en français. L'humanisme est aussi basé sur le mécénat, c'est-à-dire sur le goût de la culture que développe la Renaissance et qui fait que des gens aisés encouragent des lettrés à faire des recherches. Ils les payent, en quelque sorte, ils les subventionnent, ils les sponsorisent, comme on dirait aujourd'hui, pour qu'ils puissent faire des recherches en quelque sorte gratuites, qui n'ont pas de retombées utilitaires immédiates. Et alors, ce qui est aussi tout à fait intéressant au mouvement de la Réforme, c'est la redécouverte de Paul, les écrits de Paul, les écrits pauliniens. Les pré-réformateurs, comme Wycliffe ou Huss, n'avaient pas accordé une grande attention aux écrits de Paul. Ils s'étaient attachés davantage aux évangiles. Et de ce fait, ils n'avaient pas tellement insisté sur ce qui sera le point fort de la Réforme, c'est-à-dire la justification par la foi. Seulement, cette redécouverte de Paul part aussi d'un autre point très important. C'est l'émergence de l'idée de liberté. Le XVIe siècle, c'est l'émergence de cette idée-là. Bon, l'émergence des États indépendants. Il y a au XVIe siècle une passion pour la liberté qui naît. Et Paul, automatiquement, c'est l'apôtre de la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, ne redevenez pas esclave des hommes. Et c'est pourquoi Paul va soudain être l'objet des recherches de ces gens qui sont épris de liberté. Et dans le reste, dans la suite du temps, le protestantisme sera associé avec l'idée de liberté, à juste titre. La grâce aussi n'est pas sans être en relation avec le contexte général de l'époque, ce contexte de correspondance, de communication que nous avons vu se développer au XVIe siècle, et en même temps une prise de conscience très, très grande de la distance qu'il y a entre la pratique de l'Église, son enseignement et surtout l'enseignement de l'Écriture. Donc, la conscience de la faillibilité de l'homme. ta conscience du péché. Le XVIe siècle, c'est soudain la redécouverte du péché. Pas le péché comme au Moyen-Âge, le péché acte qui est là à tous les instants, notamment le péché de la chair, qui est finalement le seul péché véritable au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Mais la notion que l'homme est pécheur, par essence, intrinsèquement pécheur, dans son être plus que dans son faire, et que par conséquent, il a besoin d'une réponse à ce problème du péché. Et vous savez que justement, ce sera le détonateur de la réforme, la conscience aiguë qu'avaient des âmes d'élite, comme Luther, de leur péché. La conscience que strictement rien ne pouvait laver leur péché, car au siècle précédent, la stratégie de l'Église était double, l'Église catholique. C'était de ne pas désespérer l'homme en lui fermant toute possibilité de salut, et en même temps de ne pas le rassurer trop en lui donnant une assurance totale du salut. C'était de le laisser dans un entre-deux pour qu'il soit suffisamment inquiet quant à son salut pour pouvoir prêter l'oreille à ce que l'Église pouvait lui demander, et en même temps qu'il soit suffisamment rassuré, en disant si vous vous confiez dans ce que l'Église vous dit, bon, vous finirez de toute façon par être sauvé, un petit temps en purgatoire de quelques millions d'années, bon, c'est pas très agréable, mais enfin, ça supporte. On en sort. Hein ? Alors, c'est très bien ça pour le médiocre, mais pour les âmes d'élite, ils ne s'en contentent pas. Et Luther sera de ces âmes d'élite pour lesquelles ça, cet entre-deux-là ne convient pas. Et Luther, qui va chercher de toutes ses forces à faire son salut selon ce qui lui a été enseigné à l'Église catholique, aboutira à la conscience de l'échec total. Et c'est alors qu'il se tournera vers l'Écriture. C'est aussi la raison pour laquelle il y aura une telle haine chez les réformateurs de l'institution monacale. Parce que les moines sont ceux qui prétendent monopoliser l'accès au salut. Finalement, si on veut vraiment être sûr de son salut, il faut entrer dans les ordres, il faut entrer dans les moines, chez les moines. Car là, on est sur des rails, on vous conduit au salut directement. Donc ça, pour les réformateurs, c'est une abomination. C'est la confiscation du salut pour le plus grand nombre. Alors il y a une véritable rage contre le monachisme, qu'on retrouve jusqu'à nos jours dans le protestantisme d'ailleurs, quant à l'extrême suspicion vis-à-vis des communautés qui de près ou de loin ressemblent, ont un style monacal. Hein ? Ça c'est l'atavisme qui remonte à Luther. Et alors soudain on découvre que toute la dogmatique chrétienne en fait est dans l'Écriture, et qu'il suffit de la développer en quelque sorte. Et Luther va être celui qui va mettre ça en exergue. Et en même temps, ça conduira forcément aussi à une autre conséquence, c'est la dévaluation des sacrements. Si tout est dans l'Écriture, alors les sacrements ne sont plus des moyens de salut. Ils sont seulement des signes de salut. Et c'est très différent. Donc, voici ici ce qui a préparé la réforme. La réforme a été donc cette lente réflexion amenée par l'humanisme, la redécouverte de la Bible, des gens comme Lefebvre d'Étaples, comme les pré-réformateurs, Wycliffe, Jean Hus. Mais pour que la réforme éclate, il fallait plus que l'humanisme. S'il n'y avait eu que l'humanisme, il n'y aurait pas eu de réforme. Car l'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement des idées en l'air, mais Dieu agit par des hommes. Et pour que le mouvement de la réforme éclate, pour que le réveil de la réforme, car c'était un réveil authentique, il fallait plus qu'un mouvement d'idées, il fallait un prophète. Et ce prophète, Dieu l'avait trouvé en la personne de Luther. Alors nous allons parler de Luther maintenant. Si vous voulez, deuxième grand chapitre que nous entamons ce soir, Luther. Luther en son temps d'abord. Luther est né en 1483 à Elsleben, c'est comme ça qu'on dit S-L-E-B-E-N. Oui, EISLEBEN. Oui, c'est ça, voilà. Bon, très bien. Vous avez la prononciation exacte. En Saxe, dans le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, c'était un ensemble très disparate, surtout à cette époque-là, de 35 unités, dont la Bohême, qui étaient aussi eux-mêmes très différents. Il y avait des territoires, il y avait des villes libres, il y avait des principautés ecclésiastiques. C'était une entité faible, en fin de compte, à la tête de laquelle se trouvait un empereur qui était élu, descendant de Charlemagne en principe. Vers 1495, il y avait eu création de chambres impériales de justice, mais d'une manière générale, les décisions étaient prises en commun entre l'empereur et les représentants des différentes entités qui formaient le Saint-Empire, qu'on appelait la Diète. Cette Diète était composée de trois collèges, Reichstag, c'est bien ça, je le prononce bien. Le premier collège, c'était le collège des sept princes électeurs, ainsi nommés parce qu'ils élisaient l'empereur. Le deuxième collège, c'était les autres princes. Et puis ensuite, un comité de 65 membres. Au XVIe siècle, devant le Saint-Empire romain germanique, il y a un énorme problème qui surgit. C'est la pression musulmane sur ses frontières. En 1526, Soliman le Magnifique prend Budapest. En 1529, les Turcs sont aux portes de Vienne. Et alors, le gros problème qui va se poser au Saint-Empire romain germanique, c'est comment arrêter justement le progrès des musulmans. En 1517, au moment où éclate la Réforme, l'empereur du Saint-Empire est Maximilien Ier, qui est un ami des humanistes. Il est ouvert à l'humanisme. Et c'est pourquoi il verra dans le mouvement de la Réforme, au départ, une forme, un avatar de l'humanisme, et il réagira d'une manière, comment dirais-je, molle à l'explosion de la Réforme. Et quand son successeur réagira, il sera trop tard. Maximilien meurt 2 ans après, en 1519, et le trône donc du Saint-Empire se trouve vacant. Il est disputé par trois candidats. Le premier, c'est le roi d'Angleterre, Henri VIII. Le second, c'est le roi de France, François Ier. Et le troisième, c'est le roi d'Espagne, Charles V, dit Quint, Charles Quint, si vous préférez. Bon, finalement, c'est Charles Quint qui est élu et qui va se trouver à la tête d'un immense empire qui comprend l'Espagne et ses colonies d'Amérique, les Pays-Bas espagnols qu'on appelle l'Autriche, le royaume de Naples, et auquel s'ajoute maintenant l'Allemagne. C'est le plus puissant souverain d'Europe. Il est surtout redouté par la France, qui est son ennemi mortel, et puis par la papauté elle-même. Toute sa vie, Luther aura un profond respect pour la fonction impériale. Je crois que c'est dû à deux choses, son interprétation de la Bible, du respect dû aux autorités. Et puis aussi l'esprit un petit peu allemand, qui justement est un esprit qui respecte les autorités, qui respecte la discipline, qui aime la discipline, etc. La Saxe, dans laquelle Luther est né, est un des États allemands qui se trouve sous la direction d'un des sept princes électeurs. C'est donc un des grands États allemands. Bon, il y a un certain nombre de richesses minérales. Luther connaîtra dans sa jeunesse une aisance relative de sa famille. Il n'y a plus de servage en Saxe. alors que le servage existe encore au XVIe siècle dans certaines autres régions d'Allemagne. Par contre, la Saxe est surtout caractérisée par une petite noblesse qui est en difficulté sur le plan économique. Le père de Luther a droit de bourgeoisie de la ville de Wittenberg. Il est un des quatre représentants de cette ville pour l'administration de la ville. Donc il est un des membres importants du conseil municipal de Wittenberg, qui est une petite ville de quelques milliers d'habitants, 4-5 000 habitants, mais dans laquelle il y a une grande université qui est relativement importante. Maintenant, cette bourgeoisie souffre aussi d'impôts qui sont de plus en plus lourds, qui sporadiquement d'ailleurs dégénèrent en révolte, ou plutôt provoquent des révoltes. Dans cette Saxe du XVIe siècle, l'Église est de plus en plus mal tolérée, les abus sont de plus en plus dénoncés. Il y a eu les hérésies médiévales qui ont marqué la Saxe, mais au XVIe siècle, il y a de nombreuses églises nouvelles qui sont construites, rénovées. Mais les théories, les espérances millénaristes restent vivaces en Saxe. Et dans ce pays, il y a l'exigence d'une église purifiée qui se fait de plus en plus forte. Les nombreuses réformes promises par les conciles non réalisées exaspèrent les esprits et cette exaspération devient de plus en plus violente. Notamment, c'est de là que part l'idée d'un concile allemand. Si on n'est pas capable de faire un concile œcuménique, eh bien qu'au moins on fasse un concile allemand pour au moins restaurer, réformer l'Église allemande. Bon. Ce qui exaspère notamment les laïcs, c'est le concubinage de plus en plus ouvert des prêtres, n'est-ce pas, qui ont pas seulement une, mais souvent plusieurs concubines et de nombreux enfants qui découlent de ces adultères-là, bien sûr. Mais le sentiment religieux reste extrêmement fort. Maintenant, l'humanisme a peu touché la Saxe. C'est ça qui est intéressant de noter. Par contre, il y a une grande influence de l'imitation de Jésus-Christ. Les frères de la vie commune ont une certaine influence en Saxe, et c'est cette devotio, comme on l'appelle, devotio moderna. Vous voyez, on était déjà moderne à cette époque-là, comme quoi la modernité c'est quelque chose de relatif. La devotio moderna qui s'oppose à la scolastique, eh bien c'est un examen de conscience, l'humilité, la répréhension fraternelle, la lecture de la Bible et la prière. Luther, quand il sera à Magdebourg, jeune étudiant, fréquentera les frères de la vie commune, donc les partisans de la devotio moderna. Il subira l'impact de leur prédication. Les frères de la vie commune se recrutent essentiellement chez les dominicains, chez les franciscains. Bon, il y a à côté de cela des aspects moins intéressants dans cette devotio moderna, notamment la vénération de l'hostie et la compassion pour le Christ souffrant. Il y a une véritable mystique sentimentale des souffrances de Christ, la vénération du précieux sang, par exemple, la vénération des cinq blessures, le culte de la Vierge, surtout de l'Immaculée Conception, le rosaire, la récitation de 150 Ave, donc coupé par de 10 en 10 par un pater, c'est ça le rosaire, hein, qui chaque rosaire récité vaut 7700 jours d'indulgence. Bon, à côté de ça, vous ajoutez les pèlerinages Mario, etc. Vous avez une idée de l'atmosphère dans laquelle Luther a été élevé. Bon, ajoutez à cela le culte des saints, surtout de Anne et Joachim. Et alors, il y a des saints, il y a une spécialisation des saints qui est très intéressante. Sébastien est spécialiste de la peste. Vous avez la peste, vous invoquez Saint-Sébastien. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de chance de vous en sortir, mais enfin, on le dit du moins. Christophe, évidemment, qui n'a jamais existé, entre parenthèses, spécialiste des voyages, Apollinaire des Maux-de-Dents, et j'en passe et des meilleurs. Bien, il y a aussi une véritable terreur de prendre la Sainte Cène, donc l'Eucharistie, en état de péché, ce qui fait que de moins en moins de gens communient au moment de la messe. Et la communion est remplacée par le culte du Saint-Sacrement, le culte de l'hostie. Au moment de l'élévation de l'hostie, tout le monde tombe à genoux et on adore, n'est-ce pas? Et alors, ceci remplace une véritable communion avec Dieu. Il y a une chosification du religieux. Mais de plus en plus de gens attendent une réforme de Dieu. On pense que cette réforme-là viendra de Dieu, de l'Esprit de Dieu par un miracle. On a vu l'échec des conciles et on attend un miracle de Dieu. Et là, on attend notamment l'avènement de l'ère de l'Esprit, l'Esprit Saint, avec le retour à l'état originel de l'Église. Il y a aussi l'attente d'un nouveau Constantin, d'un pape qui serait véritablement évangélique, et ça, ce sera une des espérances de Luther. Luther hésitera longtemps avant de rompre avec la papauté. Il en appellera directement au pape en disant « on te trompe ». C'est pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je te mets au courant, voilà ce qui se passe. Interviens, réforme. Et ce n'est que au moment où le pape va le condamner, lui, Luther, qu'il va perdre ses illusions. Remarquez que Luther était déjà allé à Rome. Il avait pas mal été déçu là-bas, surtout quand il avait vu la corde avec laquelle Judas s'était pendu. Ça lui avait fait un choc. Il avait eu un peu de mal à avaler cette couleuvre-là. Bon, enfin voilà. Alors, voilà ce qu'on attend. Et puis alors, en même temps, cette réforme devrait être un retour de toute la société à Dieu. Donc quelque chose de véritablement eschatologique. Et puis, en même temps, quelque chose qui va redonner valeur à cette vie présente. Parce que le Moyen-Âge a complètement dévalué cette vie. D'où justement l'idéal monastique, qui est une... On sort du monde, on est coupé du monde. Hein. On vit déjà dans l'au-delà. Et en sac, à cette époque-là, on dit ben, peut-être que quand même notre vie banale, quotidienne, qui consiste à travailler pour manger, pour boire, pour nourrir nos enfants, c'est peut-être pas rien non plus, ça quand même. Ça a peut-être une certaine valeur. Et un des grands thèmes de la réforme, ça va être justement cette revalorisation des actes les plus humbles de la vie. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, on avait complètement oublié au Moyen-Âge. C'est pas... Alors, dans ce contexte-là, le jeune Luther va naître, grandir. C'est pas... le père de Luther semble avoir été extrêmement sévère à son endroit. Sa mère était une femme qui était ouverte à la sorcellerie et ça marquera Luther. Il sera très, très impressionné par tout ce qui touche le diable et ces choses comme ça. Luther est un enfant très intelligent. Et son père le destine au droit. Et très vite, il étudie, donc. Ce sera un étudiant modèle. Les étudiants ont pour principe de se livrer à la débauche la plus noire. Luther, lui, se tiendra à l'écart de ces débordements-là. La vocation religieuse de Luther naîtra d'une circonstance très, tout à fait particulière de son existence. Quand un soir, il va y avoir deux choses en fait. Il va être blessé, il va se blesser lui-même en tombant sur son épée, et il restera plusieurs mois entre la vie et la mort. Et en quelque sorte, il promet à Dieu que s'il guérit de cette maladie, eh bien, il se consacrera à son service. Puis il oublie sa promesse, et c'est quelques temps plus tard qu'il est pris dans un violent orage. La foudre s'abat tout autour de lui, il croit qu'il va mourir. Et à nouveau, il se souvient de son engagement, il promet au Seigneur que si jamais il échappe à cet orage, eh bien, il deviendra moine. Il en échappe et il va entrer donc au couvent des Augustins pour répondre à son vœu, à la grande colère de son père d'ailleurs, qui fera tout pour contrarier cette vocation monacale. Et à partir du moment où Luther est au couvent, commence alors l'aventure de la réforme proprement dite que nous verrons la prochaine fois. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser ?